en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si tu es intelligent mais que tu n'as pas d'instruction, alors tu restes muet. Cette phrase, notre invité, Christian Amator, l'a entendue de la bouche de son père et l'a fait sienne. Parti d'un milieu modeste, il enchaîne les études brillantes et devient directeur de recherche au CNRS à 32 ans. Aujourd'hui directeur du département de chimie de l'école normale supérieure à Paris, rue d'Ulm, Christian Amator est également docteur honoris causa de plusieurs universités européennes et asiatiques, membre de l'Académie des sciences et depuis mars 2011 délégué à l'éducation et à la formation de l'Académie des sciences en remplacement de Pierre Léna pour les questions relatives à l'enseignement des sciences et notamment en primaire et au collège. Christian Amator, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio
de
Canal
Académie. C'est un grand plaisir pour moi.
Vous êtes électrochimiste, vous nous direz tout dans quelques instants, tout presque sur les ultra-micro-électrodes dont vous avez été un des premiers à développer les recherches, de toutes petites électrodes qui permettent de faire de l'électrochimie dans un milieu peu conducteur. Donc vous nous en direz plus dans quelques instants. Nous reviendrons d'une manière générale sur votre parcours scientifique. Nous parlerons en dernière partie d'émission de ce que vous envisagez de faire dans le développement de la culture scientifique dans le cadre de vos fonctions de délégué à l'éducation et à la formation à l'Académie. Mais commençons, si vous le voulez bien, Christian Amator, par vos origines, car vous y tenez et ce sont ces origines qui font votre force de caractère, si vous me permettez. À la fois suédois par votre mère, sicilien par votre père, vous avez vécu une bonne partie de votre enfance en Algérie pendant la guerre, avant de venir en France et de prendre la nationalité française à 18 ans, si je ne me trompe pas. Vous pourriez nous raconter cette période où votre père est donc légionnaire, vous vivez dans une ville de garnison en Algérie. Comment vit-on, enfant, la guerre d'Algérie dans ce contexte-là ?
Alors là, vous me faites revenir des mémoires auxquelles je suis très attaché et qui me font passer un frisson dans le dos. Et c'est effectivement cette époque, c'est donc l'Algérie termine en 62, moi j'ai 10 ans, rentre en France, mais pour moi la France était un pays que je connaissais pas. En fait, je voyais qu'on était en guerre, mais la guerre, pour nous, on n'était pas exposés. C'était pas une guerre comme on peut imaginer la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Pour nous, la guerre avait des manifestations qui étaient complètement différentes. Bon, mon père, comme vous l'avez dit, était un sous-officier de la Légion étrangère. Et pour nous, moi j'étais l'aîné d'une fratrie, c'était formidable de voir mon père à la tête d'une batterie d'autocanons partir. C'était un péplum. Je vivais dans un péplum, mais je ne me rendais pas compte que mon père pouvait ne pas revenir. Ma mère, elle, je la voyais pleurer, alors que pour moi, c'était un moment de joie de voir mon père à la tête. C'était une reconnaissance de voir mon père à la tête de cette colonne d'autocanons, alors que ma mère savait que mon père risquait de ne pas revenir. Donc c'est là où, quand on est enfant, on ne perçoit pas ces choses-là. On vit dans un monde complètement différent. Moi, c'est quand même le monde des films de cow-boys et tout à l'époque. Et les enfants, on n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe. Et je me rappelle que quand on voyait les hélicoptères revenir ramener les morts au combat, nous, on était contents parce qu'on savait que quand on voyait ces hélicoptères, on ne savait pas qu'ils transportaient les morts. Parce qu'on ne nous le disait pas, on était des enfants, il fallait nous protéger. Donc nous, on voyait ces hélicoptères revenir, on savait que deux jours après, mon père est de retour. Donc pour nous, c'était un moment de joie. On voyait ma mère qui pleurait, on ne comprenait pas. Mais elle pensait que peut-être... son mari, notre père, était parmi ces brancards qu'elle savait que c'était des brancards avec les morts et les blessés. Mais pour nous, c'était simplement un signe annonciateur. C'était la colombe de l'Arche de Noé qui arrive et qui dit « bon, le déluge est en train de terminer ». Et donc, c'est plus tard que j'ai compris ce qui se passait. Mais à l'époque, non, je vivais totalement dehors de ces choses-là.
Alors, un contexte particulier où vous me disiez, en préparant cette émission, qu'en étant enfant, dans une toute petite ville, les enfants français que vous étiez et algériens étaient totalement mêlés ensemble dans la classe. Et il y avait cours normalement et il n'y avait pas forcément de...
Vous avez entièrement raison. Enfin, moi, je n'ai pas du tout appris le racisme en Algérie. J'ai perçu le racisme... beaucoup plus tard, quand je suis arrivé à Paris. Parce que dans toute ma vie, bon, en Algérie, comme on était dans des petites villes, ce qui comptait, c'était la valeur de l'autre et pas l'image de l'autre. Donc l'autre pouvait être aussi bien juif que musulman, que catholique, que protestant. Ça n'avait absolument aucune importance. À l'école, on était tous mêlés. Et moi, j'ai toujours été dans des classes où on était 30-35 et on devait être 5-6 Français là. Et le reste, c'était des petits et des petites Algériennes. Donc pour moi, c'était normal. Et c'était mes amis ou mes ennemis. Mais je veux dire, c'était pas lié à ces choses-là. Et je ne comprenais pas que moi, j'aurais la possibilité de conduire, de poursuivre des études et que non. Hein, parce que la contrainte sociale était complètement différente après l'école primaire.
Alors, on va passer sur cette période-là qui reste très intéressante, mais vous avez un large parcours très important, très riche. Juste pour terminer, puisqu'on a précisé votre père était légionnaire, alors on a tout de suite des images d'Épinal qui vont avec les légionnaires. Je voulais me permettre de citer cette phrase que vous m'aviez indiquée toujours en préparant cette émission. Votre père vous avait dit « Je suis engagé dans la Légion étrangère, mon métier est de lutter contre eux, mais si j'étais à leur place, je ferais pareil. »
Oui. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre. C'est quelque chose qui s'est passé quand j'avais 9 ans et demi. Et c'était le moment où, disons, l'OAS, en fait, tous les relents fascistes commençaient à s'exacerber, ce qui était d'ailleurs assez extraordinaire, parce qu'après, j'ai lu que l'essentiel des populations pieds-noirs, françaises de souche, étaient en fait des gens qui venaient de la commune, qui avaient été déportés là-bas, des gens qui venaient des Alsace-Lorraine, qui avait fui l'occupation allemande. Donc, c'était des gens qui, traditionnellement, votaient très rouge, exactement comme le Languedoc, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et par contre, le sentiment d'avoir été trahi, le sentiment d'avoir... je ne rentre pas si c'était la vérité ou pas, hein, je parle de sentiment. Tout ça a fait qu'ils étaient prêts à être manipulés, et ils ont été manipulés. Et moi, j'avais 9 ans, et j'étais à l'époque en 6e, et j'ai été manipulé comme tout le monde. Donc, je me rappelle qu'à un moment, pour faire le malin, j'avais parlé de choses à table, et c'est là que mon père m'avait dit « Non, tu ne comprends pas, chaque personne a son pays à défendre. Moi, je défends la France parce que je suis dans l'armée française. » Mais si j'étais né ici, si j'étais quelqu'un d'ici, je défendrais mon pays contre l'armée française. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte que le code d'honneur était complètement différent et qu'on pouvait avoir des points de vue totalement différents en fonction de ce à quoi on est attaché. Mon père était attaché à sa parole parce que c'était un légionnaire qui est devenu légionnaire par les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas quelqu'un qui était au départ un combattant, même si j'étais impressionné lorsqu'il est mort. Ma mère m'a demandé de ranger les papiers de mon père, et là j'ai trouvé tout un tas de citations au combat, de faits de gloire et tout, dont il n'avait jamais parlé à la maison, et je me suis aperçu que mon père était un héros. Mais je m'en suis aperçu quand il est mort, parce que pour lui, il nous a élevés totalement en dehors de ce problème-là, parce que c'était un militaire de carrière, au sens de la carrière, mais un militaire de devoir, parce que c'était son métier. Mais il savait qu'un militaire ne doit pas discuter. Voilà. Et moi, quelque part, j'ai appris ça aussi. J'ai appris que quand je ne suis pas d'accord, je peux essayer de me battre pour faire changer la loi, mais je garde la loi telle qu'elle est.
Oui, vous dites respecter la loi et faire bouger les codes.
Voilà.
On va avancer, si vous le voulez bien. Donc, après cette période en Algérie, vous partez en Corse. Vous êtes donc pieds noirs, vous partez en Corse, vous vous installez à Corté. Et là débute cette période aussi d'études où tout se passe très bien pour vous. Et on retrouve justement cette discrétion, la discrétion de vos parents, qui ne vont rien vous dire de leur démarche, des raisons pour lesquelles ils partent à Marseille. Donc, vous faites une partie de vos études à Corté et ensuite, vous déménagez à Marseille. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est pour que vous puissiez et suivre les études dans le lycée Thiers à Marseille.
Oui, vous touchez du doigt justement à la fois cette pudeur et cette crainte. Bon, mes parents, comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos de la phrase sur l'instruction et le fait que quand on n'en a pas, on est muet, mes parents avaient compris et étaient prêts, à partir du moment où les maîtres d'école, les professeurs leur donnaient une certification de la valeur de leurs enfants, de se sacrifier complètement pour nous. Alors nous, on ne s'en est pas rendu compte. C'était normal, c'était comme ça à la maison. Je peux vous donner un exemple de ça. Quand j'étais petit, alors, je ne sais pas trop quel âge j'avais, mais ça devait être 5 ans ou 6 ans. Je m'étais aperçu que ma mère, quand il y avait des pommes, pelait les pommes et donnait à mon frère et moi, à l'époque on n'était que deux, l'intérieur de la pomme. Et elle mangeait les pelures. Alors bien sûr, elle avait fait des pelures un peu épaisses. Je me rappelle, je me vois en train de lui dire « Maman, je vois encore la cuisine, la table », et de lui dire « Maman, mais pourquoi toi tu manges les pelures ?» Et nous, on mange l'intérieur. Et ma mère me dit « Le bon Dieu a très bien fait les choses. À l'intérieur de la pomme, c'est pour les enfants, à l'extérieur, c'est pour les adultes. Bon, en réalité, c'est qu'on était quatre et il y avait de quoi acheter deux pommes. Voilà. Mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et donc, ce type de sacrifice, nous, on était les enfants, on était la prunelle de leurs yeux, comme on dit chez les Pieds-Noirs. Et il fallait que, si c'était possible, ils faisaient confiance au système. Donc, quand le maître d'école disait « il faut absolument que Christian aille en sixième », mon père demandait sa mutation à Sidi Belabès, qui était une grande ville, parce qu'il y avait un lycée. Puis après, quand on était en Corse, quand le principal leur dit « il faut absolument aller à Marseille pour qu'ils puissent continuer des études, après on est en classe préparatoire », ils ne savent pas ce que c'est les classes préparatoires, mais le principal a dit ça, on va faire ça. Et naturellement, on ne me le disait pas, parce qu'il ne fallait surtout pas que je me sente sous une pression. D'accord ? C'était normal. Et donc moi, c'est très récemment, en allant donner une conférence dans le lycée où j'étais en Corse, en fait, dans le collège où j'étais en Corse, que mon ancien principal est venu m'écouter. Et c'est là qu'il m'a craqué le morceau, comme on peut dire, en langage moderne. Et j'ai fait semblant de comprendre, mais je n'avais rien compris à ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit « Ah, mais quand j'avais appelé tes parents, que je leur recommandais que tu ailles à Marseille, je ne pensais pas que tu monterais aussi haut. » Bon, moi, j'ai fait semblant de comprendre. Puis après, je suis rentré, j'ai téléphoné à ma mère, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Et c'est elle qui m'a maintenant expliqué tous les stades. Et je me suis rendu compte que j'en avais pris de sentiments, mais ce n'était pas une identification émotionnelle sur les maîtres, les profs. J'avais compris qu'il y en avait qui s'intéressaient à moi, pas comme un chouchou, mais on voyait qu'ils attendaient quelque chose de moi. Mais je n'avais pas compris qu'ils avaient fait derrière. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était cette école de la République. Et c'est pour ça que je me bats pour cette école de la République. Et une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette charge de délégué à l'enseignement et à la formation, c'est que je pense que trop souvent, parmi les académiciens des sciences, les gens ne pensent qu'à leur laboratoire. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est l'éducation de l'ensemble du peuple, du monde. Parce que, de toute façon, c'est ce qui garantit la richesse des laboratoires plus tard.
Alors, si vous voulez bien, Christian Amator, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Homme politique, écrivain, journaliste et même rugbyman, retrouvez le parcours exceptionnel d'Arthur Comte, un homme libre raconté par sa fille Dominique Bonnat. Entre les couloirs de l'Assemblée ou de l'ORTF, plongé dans la culture catalane. Téléchargez dès à présent l'émission consacrée à Arthur Comte sur canalacademy.com.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie de Christian Amator. Nous sommes à Corté, nous déménageons à Marseille. Vous nous avez donc expliqué la raison pour laquelle vos parents, sans vous le dire, déménagent à Marseille pour que vous puissiez suivre vos études. Vous passez le bac à 16 ans, vous faites deux prépas et à 19 ans, vous entrez à l'école normale supérieure à Paris, rue d'Ulm. Vous arrivez à la capitale, je crois savoir que les débuts ne sont pas forcément évidents. Racontez-nous cette période.
Oui, vous touchez du doigt quelque chose qui me permet d'ailleurs de comprendre beaucoup plus facilement que certains de mes amis la difficulté de connexion qu'il y a entre le public et nos métiers. Moi, bon, j'ai été formé, comme je vous l'ai dit, par l'école républicaine et je pense que j'ai été très bien formé. En tout cas, j'ai été capable de très bien restituer et c'est ce qui a été marqué par ces succès à ces grands concours, et dont l'école normale supérieure, où j'espérais pas du tout pouvoir rentrer. On avait passé ça juste pour voir ce que c'était avec mon collègue. Et simplement, là, ce que je me suis aperçu, c'était tout un pan de mon éducation qui n'existait pas. Parce que, par exemple, il n'y avait pas d'électrophone à la maison. Et comme il n'y avait pas d'électrophone, naturellement, il n'y avait pas de disque. Comme il n'y avait pas de disque, il n'y avait pas de musique classique. Parce qu'on n'écoutait pas la radio, on écoutait des choses du type Monte Carlo. Donc c'était de la musique normale. Moi, ça ne m'intéressait pas tellement. Des publicités, des choses comme ça ne m'intéressait pas tellement. Et c'est quand je suis arrivé, par exemple, à Paris, que j'ai découvert ce qu'était la cinquième de Beethoven, la symphonie héroïque, et ainsi de suite. Et naturellement, j'ai été séduit par ce que j'entendais. Mais là, je me suis aperçu que j'étais pris pour je ne sais pas, moi, un paysan ou je ne sais pas quoi, par mes propres collègues de l'école. Parce que je disais, ah, mais ça, c'est très beau, qui c'est ? On me disait, ah, mais tu ne sais même pas que c'est Mendelssohn, tu ne sais même pas que c'est Bach, tu ne sais même pas que c'est Mozart. Ben non, je ne savais pas, c'est tout. Et eux, ils n'auraient pas su s'ils n'avaient pas vécu dans des milieux où on leur a appris ça depuis leur jeune âge. Donc, quelque part, ça, au début, ça m'a donné une honte totale parce que j'avais l'impression que ça allait pas, quoi, que c'était pas mon monde et qu'il fallait que je retourne dans mon monde. Et puis je me suis accroché parce que je voulais continuer à étudier et le fait d'avoir un salaire à l'école normale supérieure faisait que j'étais plus à la charge de mes parents. Donc mes frères pouvaient continuer à faire des études Et c'est ça qui m'a accroché à rester, à aller au-delà de cette honte. Et je crois que cette honte, quelque part, je la garde toujours un petit peu, mais un petit peu comme tous les autodidactes, puisque je veux dire que dans la culture, je suis un autodidacte. Je pense que j'ai pris l'habitude de lire, de comprendre, d'écouter, et je me rends compte que dans beaucoup de discussions avec même des confrères, en fait, je connais beaucoup plus de choses en culture. Mais la culture, c'est pas quelque chose qui s'étale, c'est quelque chose qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est pas de savoir si telle symphonie s'appelle quelque chose ou tel nom, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'elle représente dans l'histoire du monde que je vois aujourd'hui, dans lequel je vis, et là où ira le monde de demain. Et je pense que c'est ça qui est important dans la culture, plutôt que de savoir quel est réellement l'auteur de telle citation.
Alors ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'au début ce sont les maths qui vous intéressent, et puis petit à petit c'est la physique, et ensuite c'est la chimie. Donc vous passez 3 ans à l'ENS, et à l'issue de ces 3 ans, vous passez une thèse. Thèse dont le directeur est Jean-Michel Savéant, qui est aujourd'hui à l'Académie des sciences, un de vos confrères. Et puis vous partez aux États-Unis. Comment se passe cette période-là, des 5 ans d'études et de recherche ?
Les études, c'est formidable. Alors bien sûr, il y a des choses qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui vous intéressent, d'autres qui ne vous intéressent pas. Il y a des choses qui vous stimulent, donc vous allez lire. Les élèves à l'ENS en chimie, on était traités comme des petits rois. Donc il suffisait de dire « Ah, mais j'aimerais bien un bouquin pour approfondir tel point ». Et Mme Weiser, la bibliothécaire, vous trouvez immédiatement dans les 10 minutes, ou alors le lendemain, vous aviez le bouquin que vous vouliez, qu'elle avait été emprunté dans une autre bibliothèque pour vous. Et ça permettait de... bien sûr, il y avait des choses dont je pensais que, de toute façon, il fallait les apprendre parce que ça faisait partie du bagage, mais ce n'était pas très intéressant. Puis par la suite, je me suis aperçu qu'en réalité, peut-être je me servais de ces choses-là bien plus que d'autres qui m'intéressaient à l'époque. Parce que moi, j'ai toujours mis une dimension émotionnelle très forte dans mon approche à la science. Et d'ailleurs, ça s'entend quand je parle de science, quand je fais une conférence de science, y compris une conférence devant des spécialistes. Et c'était très important d'avoir ce point de vue-là. Alors après la thèse, ça a été d'apprendre réellement à comment se construit la science. Parce que ce que je trouve un petit peu malheureux, c'est que dans l'éducation à la science, y compris au collège, au lycée... On n'explique pas ce qu'est la science. On a l'impression que la science tombe toute rôtie. Il suffit de l'apprendre et on sait.
Vous parlez de l'histoire des sciences ?
Oui, mais l'histoire des sciences, mais aussi la manière dont la science se construit. C'est-à-dire, pour moi, le métier d'un scientifique est essentiellement un métier de créatif, au même titre que pour n'importe quel art humain. Mais en fait, même un peintre est obligé de se plier à la texture des couleurs. Il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc un scientifique, lui, est obligé de se plier au respect par rapport à l'expérience. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas étudier un phénomène scientifique de quelque chose qui n'existe pas, parce que ce n'est plus de la science. Ça devient de la science-fiction, de la croyance. Mais en science, tout le monde rêve. Ceux qui ne rêvent pas ne sont pas des bons scientifiques, à mon avis. Mais simplement, ensuite, il faut mettre ça à l'épreuve du monde. Et c'est toute cette démarche de doute. Et c'est ce qui est difficile à comprendre. C'est qu'un très bon scientifique, c'est quelqu'un qui doute de ce que lui-même a fait. Parce qu'il se dit peut-être qu'un jour, il y aura une expérience qui montrera que ce que je pense est faux. Et dans le public, on peut dire que le jour où on montrerait que quelque chose que j'ai fait dans le passé est faux ou imparfait, ça serait une vexation. En fait, pour moi, ça ne serait pas une vexation parce que ça m'ouvrirait une perspective nouvelle sur ce que j'ai fait. Et ça, je pense que c'est la beauté de la science. La science est capable d'évoluer, de se corriger, de revenir. Alors, le malheur de la science, c'est quand on la présente de manière linéaire. C'est-à-dire que tous ces allers-retours, ces gommages, l'époque où, par exemple, on pensait que les artères servaient à faire circuler l'air pour refroidir le corps, on n'en parle plus. D'accord ? Donc, d'entrée de jeu, on apprend que les artères, c'est ça qui distribue le sang. Moi, je trouve que ça serait bien si on expliquait ça. Et quand j'enseigne, j'explique les erreurs qu'on a faites, parce que quelque part, ça donne du courage aux futurs chercheurs, aux futurs scientifiques.
Et vous dites aussi qu'il y a aussi les chercheurs qui raisonnent désormais en juste ou faux.
Oui, mais parce qu'on est arrivé à justement un point de vue de juste ou faux. Or, je pense que de toute façon... Il suffit de prendre n'importe quel aspect du monde, on s'aperçoit que c'est toujours en évolution. Vous avez un certain nombre de faits à votre disposition. Alors, si on raisonne en Sherlock Holmes, par exemple, on dit, on va trouver une explication pour ces faits. On vérifie, l'explication marche, ça devient l'explication de maintenant. Mais maintenant, vous êtes monté d'un cran sur l'escalier, d'une marche sur l'escalier. Et donc, ça va vous permettre d'engendrer de nouvelles interrogations. Ces nouvelles interrogations, elles vont être mises dans le même circuit, des preuves, et ainsi de suite. Mais à un moment, vous allez vous trouver peut-être avec un bouclage. Vous allez rendre compte que quand vous êtes sur la cinquième marche de l'escalier, en fait, maintenant, vous voyez mieux ce qui se passait sur la première marche. Et que ce que vous aviez pris pour quelque chose de fini, de complètement muré, écrire dans le marbre, eh ben, c'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, vous avez laissé passer quelque chose de très important et qui est peut-être la solution de la 18e marche plus haut. Et ça, c'est cet aspect vivant de la science, alors que lorsqu'elle est enseignée, elle est un peu morte. C'est un petit peu comme quand j'apprenais Corneille au lycée. Pour moi, c'était mort, Corneille, parce que je ne comprenais pas que... Bon, moi, je le voyais et on me le présentait comme la situation sous Louis XIV et ainsi de suite. Mais je ne comprenais pas que, en fait, ce qui était mis en jeu dans ces pièces de Corneille, il fallait aller au-delà de la manière dont c'était exprimé. C'était des sentiments que moi, j'allais éprouver plus tard dans ma vie. Mais à l'époque, je n'étais pas un adulte. Je ne pouvais pas comprendre ces sentiments. Donc pour moi, c'était des sentiments de l'époque de Louis XIV. Bon, c'était très bien, mais ça ne m'intéressait pas pour ma vie. C'est plus tard que j'ai compris. Et la science, c'est exactement pareil, parce que c'est une activité humaine, et quelle que soit la vision qu'on a aujourd'hui, par exemple, moi, quand j'étais à l'école primaire, les continents étaient comme ça depuis tout le temps, d'accord ? Après, pendant que j'avançais dans mes études, j'ai appris que les continents flottaient à la surface de la Terre, j'ai appris la tectonique des plaques, et on en a une grande illustration avec le drame infortuné du Japon. Quelque part aujourd'hui, on ne peut plus voir un tremblement de terre comme on le voyait avant. Un dragon qui se fâchait, qui bougeait sous la terre, qui faisait que le Japon gigotait de temps en temps.
Voilà, donc la science avance dans ses connaissances. Restons quelques instants aux États-Unis avant quand même d'aborder vos recherches. Vous restez 2 ans aux États-Unis et est-ce que c'est à ce moment-là que vous rencontrez Robert Whiteman, avec qui vous travaillez sur les ultra-micros ? Électrode.
Voilà. Donc, je faisais un travail dans un laboratoire de chimie organométallique parce que j'étais allé tester mes points de vue. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'étais un électrochimiste, donc de l'école de mon patron Savéan, et donc un électrochimiste moléculaire. Donc, un électrochimiste, c'est quelqu'un qui s'amuse à échanger des électrons avec des molécules. Et à partir de là, on tire des informations sur la manière soit d'activer des molécules, c'est-à-dire de les rendre réactives alors qu'elles ne sont pas réactives. Et vous voyez dans la presse les fameux radicaux libres, par exemple. Ces radicaux libres, s'ils n'étaient pas radicaux, ils n'auraient aucun rôle sur la santé ou pour nous. Mais par contre, le fait qu'ils soient radicaux leur donne une puissance de réactivité qui peut être très positive, parce que c'est comme ça que nos macrophages détruisent les bactéries, mais très négative, parce que c'est comme ça aussi qu'il y a le vieillissement, c'est comme ça aussi qu'il y a la maladie d'Alzheimer, tout un tas de conséquences médicales. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. Puis j'avais compris à l'époque que l'électrochimie pure, c'était en donner trop d'énergie à une molécule d'un seul coup. Mais donc, on n'arrivait pas à maîtriser la manière dont cette molécule allait gérer cette énergie. Et j'avais pensé, c'était le moment où la chimie organométallique se développait fortement. Et ce que j'avais pensé, c'est qu'en utilisant un centre métallique, donc un peu comme ce qu'on a dans nos enzymes, on pouvait canaliser cette énergie en la relâchant petit à petit. Disons que quelqu'un gagne 1 million d'euros au loto, s'il n'a pas un banquier qui l'aide à gérer cette fortune, très rapidement, il va y avoir n'importe quoi, d'ailleurs qu'à voir les publicités qu'on voit sur le loto, et le 1 million d'euros va avoir disparu et la personne va se retrouver encore plus pauvre qu'avant. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand on donne trop d'énergie d'un seul coup. Si maintenant le banquier relâche cette énergie petit à petit, ça permet... Donc moi, je voyais l'organométallique, le centre organométallique comme une sorte de banquier. Donc on le chargeait en énergie. Et donc j'avais été dans ce laboratoire-là chez le professeur Cauchy, qui malheureusement est mort il y a 2 ans, qui était un homme très ouvert et tout, et qui a accepté ce pari. Et j'ai passé 1 année et demie, parce que c'est pas exactement 2 ans, mais c'est 1 année et demie, à me régaler dans tout un tas de domaines, bien sûr, sous son autorité. Puis, je n'avais pas à me poser de problème de combien ça coûte. Il y avait l'argent, il y avait le matériel. Et là, dans la même université, il y avait un jeune professeur d'électrochimie, donc étant électrochimiste, donc était dans ce qu'on appelle les tenure track aux États-Unis, et qui me connaissait parce qu'il avait utilisé des résultats de ma thèse pour sa propre thèse. Et donc, la démarche de discuter avec moi est venue de lui. Moi, je voulais rompre les ponts avec l'électrochimie, non pas pour rompre les ponts, mais un peu faire comme Cortés, brûler mes bateaux pour être sûr que je ne retourne pas vers maman, quoi. Et donc, Marc commence à discuter, et lui, il avait... Ce qui l'intéressait à l'époque, c'était déterminer des quantités de neurotransmetteurs dans le cerveau de rat. Et à l'époque, les électrodes étaient relativement grosses. Et c'était, bon, vous imaginez, mettre un pieu dans un cerveau de rat, après vous étudiez le cerveau de rat, mais en réalité, ce que vous étudiez, c'est le cerveau de rat détruit. Donc lui, il avait bien compris que si ça devait aller à quelque part, il fallait diminuer la taille des électrodes pour faire ça. Et petit à petit, il s'est intéressé à ces électrodes de plus en plus petite taille. Et là, il est tombé dans des phénomènes un peu bizarres qu'il ne comprenait pas. Et sachant que moi, j'avais la réputation d'être un théoricien de l'électrochimie, il m'en a parlé. Et moi, je lui ai dit, mais attends, ces phénomènes, moi, je les ai prévus il y a 5 ans ou 6 ans. Mais à l'époque, j'avais fait le calcul que les électrodes en question devaient être micrométriques. Donc, j'avais mis ça de côté en disant, bon, c'est impossible. Puis, c'est terminé. C'était une idée, du genre d'idée qu'on remplit de ces tiroirs, mais qui n'aboutissent pas. Et là, d'un seul coup, lui avait un problème. Moi, j'avais une solution qui était déjà trouvée depuis longtemps. Et on s'est mis à travailler ensemble. Et on a développé, disons, ce nouveau champ de l'électrochimie qui permet d'aller vers énormément de choses et qui a permis de complètement redimensionner les frontières de l'électrochimie. De résoudre l'organométallique, mais surtout de passer au niveau de l'étude des tissus vivants, des cellules vivantes.
Et faire ce qu'on appelle donc des synapses artificielles.
Voilà. Alors, ça, c'était un problème qui m'avait toujours posé question. Pourquoi dans notre cerveau, nous avons des synapses plutôt que d'avoir simplement une connexion pour faire passer l'influx nerveux là. Et je n'arrivais pas à comprendre... ni comment une synapse pouvait répondre aussi rapidement, parce que bon, je suis un homme de l'électrochimie moléculaire, donc de la diffusion, et quelque part, je sais que la quantité, si vous voulez, pour que deux molécules réagissent, il faut qu'elles puissent se rencontrer. Or, dans une synapse, la synapse est très petite. Hein. Quand vous envoyez une information d'un de vos neurones vers un autre neurone, c'est à peu près 1000 ou 2000 molécules qui sont échangées. Alors, 1000 ou 2000 molécules de cette taille-là, c'est pratiquement imperceptible à n'importe quel instrument aujourd'hui. Hein. Néanmoins, le cerveau fonctionne très bien, vos muscles fonctionnent très bien avec les synapses musculaires, avec ce genre de choses. Et disons que si vous abusez un tout petit peu sur l'alcool, vous vous rendez compte que de suite, ça ne va pas, on ne tient pas bien debout. Bon, tout est ralenti et c'est parce qu'on vient perturber un peu ce système-là. Donc, c'est un système qui est essentiel, il doit marcher. Et là, j'ai eu une révélation, c'est que... En fait, ce qui est important, c'est que le petit effecteur, la petite molécule chimique qu'on appelle messager, puisse rencontrer le récepteur. Le récepteur, c'est une grosse protéine qui est dans la membrane du neurone récepteur. Et en fait, si la synapse est toute petite, si c'est un film liquide tout petit, très peu de molécules dans ce film va faire une grande concentration. Donc, une grande probabilité que des molécules puissent toucher le récepteur. Et c'est ça qui assure cette possibilité. Donc, je me suis dit, avec Whiteman... Ah, mais maintenant, si à la place du neurone récepteur, on met une électrode qui est capable de reconnaître cette molécule par un échange d'électrons, à ce moment-là, en l'approchant très près de la cellule, on va faire aussi augmenter la probabilité que la molécule qu'on cherche à détecter touche l'électrode. Et effectivement, ça marche. Et donc après, le problème, bon, au début, on a développé ça sur la neurotransmission, puis mon collègue Whiteman, lui, est parti... vers ce qu'on appelle les sciences du comportement, étudier par exemple qu'est-ce qui se passe quand un rat mâle rencontre un rat femelle et ainsi de suite. Donc voir comment c'est lié les histoires de neurotransmetteurs dans le cerveau, de quantité de neurotransmetteurs, d'échanges. Bon, moi, je suis resté physico-chimiste et ce qui m'intéresse, c'est plutôt de comprendre quels sont les mécanismes physico-chimiques qui sont supplétifs à un certain moment, puis deviennent le mécanisme principal de tout un tas d'échanges au niveau des cellules. Parce qu'on a très tendance à dire, bon, la biologie, c'est une affaire de protéines, de grandes structures, de membranes, de canaux ioniques, de ces choses-là. Mais ça, c'est vrai. Et moi, l'exemple que je prends toujours, c'est Paris, avec ses rues, ses grosses protéines qui vont être les magasins qui sont là et tout. Mais sans les gens qui circulent entre ces magasins, ben, le magasin ne sert à rien. Donc, vous pouvez avoir une belle protéine qui est là, dont la fonction est de faire quelque chose. Si elle ne reçoit pas le petit messager ou l'effecteur sur lequel elle va travailler, ça ne sert strictement à rien. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir les gens circuler dans tout ce système-là plutôt que de voir mes collègues biologistes moléculaires font très bien la partie de compréhension de comment marche la boulangerie ou comment marche le café ou comment marche la samaritaine, si j'ose dire. Moi, je regarde plutôt qu'est-ce que viennent faire les gens là-dedans.
Alors, on arrive malheureusement au terme de notre émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous dire quelques mots sur vos nouvelles fonctions à l'Académie des sciences. Donc, vous remplacez Pierre Léna et vous vous penchez à votre tour sur les questions de l'enseignement des sciences sur un plan général, mais également, notamment, en primaire, parce qu'on connaît bien l'action à la malapate, qui se développe aussi au collège. Qu'est-ce que vous envisagez et quel serait votre souhait le plus cher que vous allez certainement mettre en œuvre?
Alors, pour l'instant, je vais vous corriger un petit peu, parce que vous avez dit remplacer Pierre Léna. Alors, remplacer Pierre Léna, c'est quasiment impossible. Et je me sens tout petit quand je vois ce qu'il a fait. Bon, maintenant, on travaille depuis un moment ensemble. On va continuer à travailler ensemble jusqu'au moment où j'estimerai que je suis capable de conduire la voiture. Mais pour l'instant, je vais être en conduite accompagnée. Et c'est moi qui l'ai demandé, c'est pas lui. Lui, il me fait beaucoup plus confiance que je me fais à moi. D'ailleurs, les gens de l'Académie des sciences qui ont voté pour moi me font peut-être plus confiance que moi je me fais. Parce que c'est le système qui a été bâti par l'ADEF est réellement un système d'une qualité qui s'appuie sur des gens très motivés. Et moi, avant, je voyais les résultats. Maintenant, je vois les gens qui travaillent, qui sont capables de se décarcasser pour arriver à mettre en œuvre une idée et tout. Et ça, c'est formidable. Alors, qu'est-ce que j'ai apporté là-dedans? Pour l'instant, je pense que je vais apporter une certaine continuité parce qu'il n'y a pas de raison de changer quelque chose qui marche très bien. Et plus tard, quand je serai plus maître de cette délégation, pas maître au sens, mais que je me sentirai capable de conduire la voiture, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on peut aller vers le public? C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'éducation et la formation, c'était centré sur le système d'éducation et de formation. Mais je pense que même quelqu'un qui sort en terminale en ayant fait une terminale S, 20 ans après, il est en face de sciences qui n'ont rien à voir avec les sciences pour lesquelles il a été préparé quand il a eu le baccalauréat. Et donc, je pense que c'est important. Et je crois qu'en France, c'est un pays, normalement, de l'intellectualité. Il y a très peu, par exemple, d'ouvrages de vulgarisation. Il y a très peu d'émissions de vulgarisation scientifique. C'est un fort contraste, par exemple, avec ce qui se passe chez nos voisins d'Outre-Manche, où vous avez des très belles émissions. Alors, par exemple, moi, j'ai en tête une série d'émissions excellentes qui étaient un peu coordonnées par Yves Coppens sur l'évolution de l'homme, depuis Lucie jusqu'à pratiquement la première société, les premiers villages, les premières sociétés tribales. Et je trouve que, bon, je lis beaucoup sur ces domaines-là, donc d'abord j'ai trouvé une certaine vérité là-dedans, moi en tant que scientifique, mais je pense que ma mère, qui n'est pas une scientifique, a mieux compris ce que c'était l'évolution de l'homme. Et je pense que dans beaucoup de cas, on peut faire des émissions très intéressantes, à condition de ne pas prendre le public pour un élève qui aurait besoin d'avoir un tonton Macoute derrière pour rester en face de la télévision, par exemple. Et je pense que la télévision est un instrument très fort là-dedans.
Vous ne parlez pas de vulgarisation, c'est voulu?
Oui. Non, la vulgarisation, je vous ai expliqué déjà la difficulté pour le scientifique de déterminer lui-même ou elle-même si on a compris. Donc, quand vous vulgarisez, vous faites beaucoup plus croire qu'on a compris que la réalité. Et quelque part, ça se verrouille. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la science. Moi, j'ai appris, comme tout le monde, à l'école élémentaire, la grammaire. Alors, avec les accords de participes passés, par exemple, hein, je ne vais pas rentrer dedans, d'autant plus que si jamais je me trompais, je me ferais tuer par mes confrères de l'Académie française. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on apprend ces règles-là. Mais en réalité, quand on est à l'école élémentaire, ce sont des règles. Alors, pour beaucoup de gens, par exemple, après, ils vont écrire à la télévision, c'est inadmissible, tel journaliste a fait telle erreur de grammaire. Bon, si maintenant on apprenait le principe du langage plutôt que... Alors, bien sûr, on ne va pas l'apprendre à l'école élémentaire, mais quand on comprend ce que c'est qu'un langage évolue, comment les langages s'interpénètrent, comment des nouveaux mots arrivent, et ainsi de suite, et s'installent dans un langage, ça devient une vision totalement différente. Et ça, si vous vulgarisez et que vous faites un bouquin de grammaire du type des bouquins de grammaire qu'on utilise quand on a les enfants, parce que là, il faut qu'on corrige les devoirs, donc on est obligé de se rappeler les règles de grammaire, hein, vous vous figez dans quelque chose, même si c'est très compréhensible. Et voilà, c'est pour ça que je n'aime pas le mot vulgarisation. C'est pour ça que, quelque part, par exemple, j'adorais le Palais de la Découverte, parce que le Palais de la Découverte, il vous disait, voilà, bon, bien sûr, c'était un espace restreint, pour une manip, mais en fait, allez, amusez-vous et regardez ce que vous trouvez. Et c'est pour ça que j'adore la main à la pâte, là, on prend, et surtout sa transposition au collège, Les enfants parlent entre eux, donc on crée un laboratoire. Ils sont sur un problème, chacun amène sa petite explication, se les conteste. On voit le système dériver, le professeur n'intervient pas là-dedans, sauf si on lui demande d'intervenir. Et vous vous rendez compte justement comment marche la science. Et les enfants s'en rendent compte. Et après, ils essayent de valider, d'inventer des expériences qui vont valider ou pas valider ce qu'ils pensent. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et je pense que c'est plutôt comme ça que doit être faite l'éducation.
Donc pour l'expérimentation et pour les sciences participatives.
Voilà.
Merci Christian Amator. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis, je l'espère, à une prochaine fois. Notre studio vous reste ouvert pour nous parler de la main à la pâte ou de vos recherches, puisque nous n'en avons parlé que pendant un tout petit quart d'heure. Il leur ferait bien sûr fallu une émission beaucoup plus longue pour parler de vos travaux. Merci et à bientôt. Au revoir.
Voilà, ce sera avec très grand plaisir.